On dit qu'avec l'essai sur le don, entre autres, il a fondé l'ethnologie française.
Dans les images très fortes que l'on peut lire dans l'essai sur le don, il y a celle-ci qui est un classique de l'anthropologie. Deux groupes, deux tribus se rencontrent pour la première fois. Qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, le don permet, en quelque sorte, de symboliser une offre d'alliance. Au lieu de s'affronter, on va garder une bonne distance, s'approcher, peut-être poser un premier objet, et l'autre, en acceptant ce don, le recevant, puis en le donnant en retour, marquera justement sa volonté de créer de l'alliance, mais plus que ça, presque un pacte social au sens des théories du contrat social.
Prénom ?
Marcel.
Nom ?
Mauss.
Date de naissance ?
10 mai 1872 à Épinal, dans les Vosges.
Filiation ?
Dans sa famille, le grand homme, c'est l'oncle, Émile Durkheim, dont il publiera les textes posthumes, assurant aussi la continuité de sa revue L'année sociologique. On a dit que Durkheim, c'était le grand prêtre de la sociologie française, et Mauss, son génie plus foisonnant, son sorcier, son sourcier.
Et une affiliation ?
Le Parti Socialiste. Il tient la rubrique coopérative dans l'Humanité de Jaurès. Resté fidèle en 1920 à la vieille maison, il dira des communistes, ils nous ont volé l'humain.
Enseignement ?
Dès 1901, l'école pratique des hautes études, dans une chaire d'histoire des religions des peuples non civilisés. Alors ces deux mots ne sont pas de lui. Il déteste aussi l'adjectif primitif. Après 1925, l'Institut d'ethnologie. 1931, élection non sans mal au Collège de France à une chaire de sociologie, enfin. Il dépasse les spécialités de toute façon en disant que l'important c'est de visiter les faits.
Un mariage ?
Tardif, en 1934 avec Marthe Dupré, après une longue vie de célibataire. Sa femme tombera presque aussitôt malade et sa vie va devenir de moins en moins facile.
Quelles sont ses œuvres principales ?
Alors, elles sont très dispersées, mais on les a rassemblées en 4 volumes. Sa thèse sur la prière est restée inachevée, mais son texte le plus fameux a encore beaucoup d'écho aujourd'hui, l'essai sur le don de 1925.
Et il a connu les deux guerres ?
Il a fait la première comme interprète, l'observation des manières d'être des Anglais et des Australiens. Ça a été mon plus long terrain, disait-il. La seconde guerre lui sera fatale. Contraint par le statut des Juifs de démissionner de ses fonctions, il verra les calculs égoïstes l'emporter bien souvent sur les solidarités qu'il avait toujours recherchées.
Et sa mort ?
Dans la désolation, le 10 février 1950.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ? Je vous écoute.
La réponse à votre question tient en peu de mots. L'homme total ne peut se réduire à l'homo economicus. Mauss disait « donner, librement ou obligatoirement, on ne risque pas de se tromper ». Et il citait un proverbe maori « donne autant que tu prends, ce sera très bien ». Proverbe maori, eh oui, il peut être bon de revenir à l'archaïque. On y retrouve des motifs de vie pour aujourd'hui. La joie à donner en public, le plaisir de la dépense artistique généreuse, celui de l'hospitalité. L'assurance sociale, la coopération, la mutualisation d'aujourd'hui seront mieux fondées s'il y a ce roc, c'est son mot, des vieux principes. L'oncle, le maître Durkheim, avait déjà parlé d'harmonie sociale. L'un des nombreux apports de la pensée propre de Mauss au travail collectif de l'école de Durkheim, c'est donc celui du don. Et c'est cette silhouette vigoureuse qu'il dessine de plus en plus nettement avec les années.
L'homme était d'une stature assez vigoureuse et confortable. Il n'avait rien d'un intellectuel exsangue et accablé par son génie. Le front haut, un peu dégarni, la barbe carrée, l'œil gris sous le sourcil un peu broussailleux, une certaine distinction dans les traits et le port de tête. La voix basse, sans éclat, sans artifice, le geste rare.
C'est un des élèves de Marcel Mauss dans cette haute époque des années 30 qui parle ainsi. Bernard Champeau, devenu préhistorien, il participait au cours de l'Institut d'ethnologie qui tenait ses quartiers à l'Institut de géographie, rue Saint-Jacques. Parmi les étudiants, un Africain, un Américain, un Russe blanc, un Haïtien et des Français prêts à partir en mission au bout du monde, dont nombre de femmes, Germaine Dieterlin, Thérèse Rivière, Germaine Tillon et Denise Paulm.
Marcel Mauss était un homme qui haïssait toute convention et profondément original, aussi bien dans son intelligence, dans son esprit, dans son enseignement et, disons-le, aussi dans son comportement quotidien. Je me souviens d'avoir été, par exemple, faire son marché avec lui. Il adorait discuter avec les commerçants et c'était vraiment l'esprit le moins convenu et le plus original qu'il soit. Son enseignement était pour nous un émerveillement, car il nous emmenait tout de suite hors des chemins battus, il nous ouvrait toutes sortes de perspectives, et on sortait de son cours souvent un peu titubant, ne sachant plus très bien où on en était.
Donc dans le domaine des sciences humaines, Mauss renouvelle la figure du maître, Durkheim, et dans le domaine de la politique, on peut dire qu'il relève celle de Lucien Herr. Lucien Herr a été longtemps le bibliothécaire légendaire de l'école normale supérieure, qui guidait les élèves à travers les rayons, mais qui était aussi leur conscience politique et au-delà celle de beaucoup de jeunes gens de gauche. Mauss se tenait non loin de lui au moment où Jaurès a fondé l'Humanité à laquelle il allait collaborer.
Il est beau,
non ?
Anatole France, Lucien Herr, Léon Blum, Lucien Lévi-Brulle, Aristide Briand, René Viviani, Jean Allemann, Tristan Bernard, Jules Renard, Jean Longuet, Henri Jouvenel, les plus beaux talents de Paris, nous avons 17 agrégés.
Oui, mais où sont les journalistes ?
Nous devrions appeler le journal Les Humanités.
Merci à vous tous, mes amis. Grâce à vous, nous avons enfin un journal bien à nous. Un journal qui sera ouvert à tous les socialistes. Je dis bien à tous. Avec ça, nous allons travailler à l'unité du socialisme et de la classe ouvrière.
Alors si la recherche mène loin aux antipodes, l'engagement politique se vit au plus près. Dans les syndicats, Mauss admire l'aspiration à l'unité qui les anime. Dans le Parti socialiste, il applaudit la volonté de rassemblement de Jaurès. Dans les coopératives, troisième pilier du mouvement social, il se trouve plus encore à son aise. Notre premier interlocuteur, ce sera Philippe Chagnal. Il anime la revue du Mauss qui a été créée il y a une quarantaine d'années. L'acronyme dit tout, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales.
Son engagement se fait principalement au sein des coopératives, très tôt. Le mouvement coopérativiste en France a une belle histoire. Ce qui l'intéresse dans les coopératives, c'est que c'est du socialisme pratique. L'idée de la coopérative, l'idée fondamentale, c'est de pouvoir modifier, dès maintenant, sans attendre le grand soir, des formes de propriété, c'est-à-dire pouvoir mettre en œuvre des formes de propriété sociale dans lesquelles les besoins des uns et des autres sont justement satisfaits d'une façon égalitaire. Donc à la fois une socialisation de la production contre la propriété privée, et puis également ce qui le fascine dans les coopératives. Alors bien sûr, il y a l'histoire glorieuse des coopératives anglaises, il y a ce qui se joue également dans les coopératives russes. C'est l'idée que le socialisme, c'est l'affaire des citoyens eux-mêmes. Et donc, non seulement on définit notre forme de droit tout de suite, une autre forme de propriété, on la met en œuvre d'une façon expérimentale, également une autre forme de gestion, on pourrait dire d'autogestion. Hein, et ce terme d'autogestion, dans des travaux que j'avais pu faire, apparaît vraiment au début des années, enfin au début du XXe siècle, notamment dans les débats sur les retraites ouvrières, cette idée que le socialisme doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et donc la coopérative, c'est aussi une école de démocratie où on apprend à gérer soi-même, en quelque sorte, ce trésor de guerre que l'on y accumule. Et donc ça réalise pratiquement l'égalité.
Mais c'est la coopérative de production, mais c'est aussi la coopérative de consommation ?
Les deux. La tradition française est peut-être davantage celle des coopératives de production. Le modèle anglais davantage celui des coopératives de consommation. Et de fait, il va s'investir davantage dans les coopératives de consommation qui sont de fait plus faciles aussi à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de mobiliser préalablement un capital important. Il a en tête, et ce qui est aussi l'un des mots d'ordre du mouvement fabien anglais pour lequel il a un très grand respect, un très grand intérêt, la perspective d'une démocratie des consommateurs. C'est-à-dire que la démocratie sociale ne passe pas seulement par la socialisation de la production, mais aussi par la socialisation de la consommation dans ce modèle, oui, d'une démocratie des consommateurs. Et c'est pas simplement une lubie, on pourrait dire, idéologique ou politique. Mauss va s'engager au-delà des textes fameux qu'il écrit. Il va tenir la rubrique coopérative dans l'Humanité dès la création du journal par Jaurès.
Notez que le plus vif de cet esprit coopératif peut agir encore aujourd'hui avec un vocabulaire pas si différent de celui de Mauss, ici Faux-la-Montagne, sur le plateau de Mille Vaches.
La D992. Alors on est à une bonne heure en voiture de Limoges. Voilà Faux, F-A-U-X, la montagne, altitude 720 mètres, ses lacs, sa forêt et son terrain de camping. Mais pas que. Camarade, 25 ans d'autogestion et de coopération, viens visiter l'exposition des 25 ans.
On ne produit pas n'importe comment, on travaille ensemble, on décide ensemble, on gère ensemble.
On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit autrement, que ça soit différent? Et en gros, je caricature un peu, mais on s'est dit, bon, bah, y a deux manières de changer les choses. Soit on fait de la politique, soit, puis c'est cette voie-là qu'on a choisie, on y va de manière plus expérimentale, sur du concret, on va monter une entreprise pour y travailler autrement. Il y avait vraiment ça dans le début d'Ambiance Bois, qu'on avait envie de bâtir autre chose. Pour nous d'abord, pour nos vies. Et puis, en se disant, c'est aussi une manière de répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire?
On gère ensemble!
Voilà les 25 ans d'Ambiance Bois, 25 ans d'autogestion, 25 ans de coopération à Faux-la-Montagne.
Le romancier Louis Guilloux lui raconte à Saint-Brieuc la fin, ou plutôt l'inachèvement de la Maison du Peuple. Les ouvriers étaient en train de la construire quand s'est déclarée la guerre. Jaurès est assassiné l'été 14. Le Parti Socialiste se rallie à l'Union Sacrée. Mauss lui-même s'engage dans l'armée. Après 1917, la prolongation de la guerre, les révolutions russes réveillent les tensions chez les socialistes. Mauss disait que la forme parti avait ceci d'utile qu'elle permettait de régler les querelles dans des formes statutaires. Quand le congrès de Tours donna, en décembre 1920, la majorité aux partisans de l'adhésion à l'Internationale communiste, au Comintern, Mauss choisit, lui, de rester dans la minorité, section française, de l'Internationale ouvrière socialiste. Il a pourtant sympathisé avec la créativité des révolutions russes successives depuis 1905.
Il est fasciné par la forme soviétique. On pourrait presque séparer soviétique et soviétique. Le pouvoir soviétique n'a pas été comme il aurait pu l'être, peut-être, et comme il le prétendait, en tous les cas, tout le pouvoir aux soviets. Et la forme soviète permet de généraliser des espaces à la fois de production, de délibération ou d'échange de multiples services qui s'opèrent hors de la tutelle de l'État et tout aussi bien hors des formes de régulation ou d'absence de régulation de l'économie de marché. Et le soviet, c'est aussi un moyen de créer du social, en quelque sorte. C'est du social qui peut se constituer d'une façon libre, volontaire, à travers différentes formes d'échanges. Donc la forme soviet lui apparaît comme étant une forme passionnante à étudier. Mais lorsqu'il étudie d'une façon plus approfondie et lorsqu'il donne son appréciation sociologique du bolchevisme, ce qu'il perçoit assez vite, c'est que dans cet équilibre, et on retrouve le socialisme des trois piliers que j'évoquais tout à l'heure, entre le parti, le syndicat et les coopératives, c'est bien l'État, à travers la mainmise du parti, qui va jouer le rôle le plus essentiel. Et toutes ces espérances, cette inventivité-là du soviet, en quelque sorte, contrairement à ce qu'il aurait pu être, il n'a été qu'un socialisme d'État.
Oui, la pratique des bolcheviks, autant que les circonstances qui ne dépendaient pas d'eux, a fait pencher le régime vers un système de plus en plus exclusivement étatique, ce qui n'était pas le tour d'esprit de Mauss, qui disait une économie plurielle, avec du privé, de l'étatique, du coopératif, est toujours mieux assurée de sa durée qu'une économie forcée.
France Inter. Intelligence, service.
Plaisir d'offrir, joie de recevoir des cadeaux, des souvenirs sur le ring, en peignoir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir l'œil du tigre, la griffe du jaguar.
En 1925, l'essai sur le don de Mauss ne connaîtra-t-il pas une extraordinaire fortune, Monsieur Lebrun ?
Il faut se remettre dans le contexte de l'après-guerre de 14. Se pose la question des réparations que doit verser l'Allemagne. Faut-il remettre la dette ? Trouver un modus vivendi avec le pays vaincu ? C'est à ce moment-là que Mauss, qui est un anthropologue de cabinet, qui connaît un peu toutes les langues, se plonge dans l'œuvre d'un grand ethnologue germano-américain, Franz Boas, d'ailleurs communiste, qui attire son attention sur la cérémonie du potlatch chez les Amérindiens. Un rituel qui s'organise autour de l'échange du don.
Qu'est-ce qui se passe à travers ces rites du potlatch ? Eh bien, on voit les grands chefs de ces différentes tribus américaines qui, au lieu d'accumuler les biens qu'on leur donne, systématiquement les dilapident. Pas une économie de l'accumulation, une économie de la dilapidation. Et donc, ici, oui, il y a des biens qui passent de main en main, mais le profit lui-même, c'est pas le profit économique, puisque des biens non seulement sont donnés, dilapidés, mais sont même brisés, détruits. Et l'importance du potlatch, c'est de montrer que, à travers ces échanges-là, l'intérêt en jeu n'est pas un intérêt économique. Il y a un intérêt de statut, il y a un intérêt de pouvoir. Celui qui gagne, c'est pas celui qui prend tout, celui qui gagne, c'est celui qui donne tout. Donc une sorte de renversement assez fort par rapport à nos représentations classiques de l'économie. Donc il s'agit d'affirmer un statut, une supériorité, quitte même à écraser l'autre sous le poids de son don, de le mettre dans une position où il ne pourra pas donner en retour. Le lien qui se noue n'est pas au service du bien qu'on veut acheter, du bien qu'on veut vendre, mais des échanges dans lesquels le bien est au service du lien.
Alors, soit le potlatch d'Amérique du Nord, soit le kula maintenant. Alors, Mauss n'est allé sur aucun terrain, mais il lit tout. Ainsi, Malinowski. Celui-ci a observé en Nouvelle-Guinée, le kula. C'est une autre manière d'échange, intertribal, réservé au chef. Les objets circulent en cercle, dans un sens, dans l'autre. C'est à qui fera preuve de la plus grande libéralité.
L'autre grand exemple que donne Mauss, celui de la ou du kula, et cette fois on part de la côte pacifique pour s'intéresser ici à un autre monde, hein, à celui de l'Océanie, eh bien, lorsqu'il étudie la kula, à la suite des travaux de Malinowski, ce qu'il observe à travers ce cercle de la kula, c'est-à-dire ces objets qui vont se déplacer dans un certain sens des aiguilles d'une montre, des colliers, et dans le sens inverse des bracelets, eh bien, comment à travers ces échanges fortement ritualisés, ce sont ces différentes îles, ces différents villages, ces différents clans qui vont faire alliance. avec ces dons qui sont des dons obligatoires. On doit donner, on sait à qui on doit donner. Et dans la mesure où ces échanges s'opèrent dans les deux sens, eh bien, dans ce cercle-là, ces différents groupes vont s'unir, vont passer alliance, vont faire la paix, en quelque sorte. Et donc, la nature des biens importe assez peu en elle-même. Ce sont des biens symboliques qui viennent symboliser le lien, qui viennent symboliser l'alliance qui se noue entre ces groupes, entre ces villages, entre ces îles, entre ces clans. Donc la découverte de Moss ici, c'est que à travers des échanges que l'on aurait tendance à considérer comme des échanges économiques, puisqu'il y a des biens qui passent de main en main, eh bien ce qui est le plus fondamental, c'est justement que s'y constitue en quelque sorte, s'y institue, s'y réactualise du lien entre des groupes qui potentiellement pourraient être des groupes en rivalité, potentiellement des groupes qui pourraient être en guerre les uns avec les autres. Et donc c'est en mêlant à la fois la figure du potlatch et celle de la kula, qui n'a pas ces dimensions systématiquement rivalitaires, agonistiques, qui est beaucoup plus pacifiée, qu'il va essayer de démontrer, c'est quand même sa thèse fondamentale, que le don constitue le roc, ou du moins l'un des rocs, de la sociabilité humaine.
Ainsi circule, avec ces objets qui passent de main en main, mais qui ne sont pas seulement des objets, ce sont des objets où s'inscrivent les personnes, ainsi circule la paix.
Deux groupes, deux tribus se rencontrent pour la première fois, qu'est-ce qu'elles font ? La réaction première est celle d'une méfiance, parce que la violence peut exploser à tout moment. On ne se connaît pas, les liens de la confiance n'ont pas été noués. Le risque de la guerre, le risque de la mort est très très fort. Comment on réussit à la contenir ? Bien, la leçon anthropologique générale de Moss consiste à dire, dans ce cas-là, pour éviter la guerre, on peut la pratiquer, elle se pratique, bien sûr, eh bien, le don permet, en quelque sorte, de symboliser une offre d'alliance. Au lieu de s'affronter, on va garder une bonne distance, s'approcher, peut-être poser un premier objet, un premier don, et l'autre, en acceptant ce don, le recevant, puis en le donnant en retour, marquera justement sa volonté de créer de l'alliance, de signer en quelque sorte un pacte d'alliance, un pacte de non-agression, mais plus que ça, presque un pacte social au sens des théories du contrat social, avec cette idée que la violence, elle est toujours présente. Et comment on peut justement réussir à la contenir et aussi à la symboliser ? Il y a toujours un excès de générosité, un excès d'hostilité. Les choses sont excessives dans le don.
Le don constitue un fait social total. Alors, dans le musée des faits, quelle ethnologie et que visite Moss ? Un échelonnement peut être établi. Il est des faits sociaux qui ne sont pas totaux, et d'autres à partir desquels l'ensemble des pratiques change.
Justement, on peut reprendre l'exemple du don. En quelle mesure un fait doit être étudié sous toutes ses facettes, c'est-à-dire ne pas dire qu'il s'agit d'un fait avant tout de nature économique ou juridique ou religieuse. Il englobe, il est total en ce premier sens, qu'il englobe toutes les dimensions du social. Donc il ne s'agit pas de l'isoler en le définissant seulement sous l'un de ses aspects. Et puis il est total au sens où il engage l'ensemble de la société. Et l'exemple du don pour cela est essentiel, c'est-à-dire à travers un don singulier en quelque sorte, qui va se jouer entre deux personnes. Ces deux personnes sont les chefs de deux clans et c'est toute la société qui est engagée, c'est l'ensemble des groupes qui sont engagés justement dans cette pratique-là.
Mais il dit qu'il faut observer concrètement. Alors ça veut dire quoi ? La sociologie concrète ?
L'impératif de concrétude est fondamental chez Moss. C'est-à-dire qu'il est un ethnologue qui est à la recherche de son ethnographie. Alors, il ne va pas la faire lui-même, mais il a une passion du détail, il a une passion du concret. Et le fait social total, ce n'est pas un fait que l'on peut étudier justement d'un point de vue généralisant, extérieur. Il faut d'abord le décortiquer, le fragmenter, le diviser en ses multiples dimensions pour ensuite faire ce travail de reconstitution de sa totalité. Le manuel d'ethnographie qu'il n'a pas rédigé, mais c'est un de ses cours, donc qui a été ensuite publié par ceux qui l'ont suivi, explique bien comment on peut récolter tout un ensemble de faits pour étudier une société dans les différents domaines économiques, juridiques, esthétiques ou érotiques, etc. Avec des prescriptions très précises sur qu'est-ce qu'il faut aller recueillir, les termes de parenté, etc., etc., les objets techniques. Il y a une passion, et d'ailleurs dans les tout derniers textes de Mauss, sur la question des techniques, et les techniques, les rapports au corps, etc.
Allez, une image. L'échange des dons, c'est un peu comme une aiguille qui coud les brassées de paille qui sont là sur le sol et dont on va faire un toit qui abrite l'humanité. Et pareillement, le travail scientifique, l'ethnologie va, vient, elle coud les disciplines les unes avec les autres, elle produit un même toit.
C'est dans les années 30 que Mauss atteint son zénith, Monsieur Lebrun. Période qui voit se déployer son enseignement.
Alors, à ces deux premiers lieux d'enseignement que sont l'École pratique des hautes études et l'Institut d'ethnologie, il ajoute, à partir de 1932, le Collège de France, où il a fini par être élu après une longue campagne assez âpre. La sociologie qu'il incarne, en tant qu'héritier de Durkheim, peut-elle enfin avancer démasquée au collège? En fait, il va consacrer sa leçon inaugurale à l'observation des phénomènes généraux de la vie collective dans les sociétés de type archaïque. Et ensuite, il va traiter pendant plusieurs années des germains. Alors, s'il y a un rapport de force entre disciplines, l'avantage est encore plutôt à l'époque à l'ethnologie. Et c'est en ethnologie qu'il forme ses meilleurs étudiants par un enseignement qu'il improvise, où il ne cherche aucunement à simplifier, mais qui les happe un peu à la manière, ont-ils dit, des nuits de Scheherazade. Le témoignage de Jacques Soustelle et de Bernard Champeau.
Alors, ces cours produisaient sur le débutant un effet de stupeur profonde, car Mauss était une personnalité étonnante, une sorte de prophète à la voix caverneuse, qui émaillait ses propos de citations en anglais, en allemand, en turc, en chinois, de références bibliographiques extraordinairement obscures et difficiles pour des étudiants qui avaient 17 ou 18 ans, tels que par exemple, il y a là-dessus un article absolument indispensable de Von quelque chose qui doit être publié dans la Zeitschrift für Ethnologie, à moins que ce ne soit dans telle autre vue en 1910 ou peut-être en 1915. Voilà le genre de citation bibliographique qu'il donnait. Et puis, il émettait des aphorismes qui vous frappaient par leur côté paradoxal. Et il s'appuyait sur une érudition absolument prodigieuse, gigantesque. Il tirait de sa mémoire inépuisable des exemples empruntés aux Papous, aux Polynésiens, à la Grèce antique, à Rome, à l'Inde védique, au Pueblo du Nouveau-Mexique. Est-ce que je sais ? C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Un torrent qui déferlait littéralement sur nous.
Que disait-il ? Eh bien, je dois dire qu'au cours de la première leçon, je me le suis demandé. Je n'y comprenais rien. Ou plus exactement, j'avais les plus grandes difficultés à suivre l'enchaînement de ce qui était dit. Il faut dire que Mauss avait une façon bien à lui d'enseigner. Ce n'était pas un pédagogue. Il arrivait, par exemple, qu'au bout d'un très long moment, on entendait « douzièmement, douzièmement ». Mais on n'avait pas entendu ni le premièrement, ni le deuxièmement, ni le troisièmement. Je restais sur ma faim. Je revins tout de même au deuxième cours et je me trouvais devant la même déconvenue. Et puis, tout d'un coup, à la fin de cette heure de cours, il y a eu un moment très court où Mauss, ramassant tout ce qu'il venait de dire d'une façon extraordinairement claire et brillante, a obtenu, je peux dire, en quelques instants, mon adhésion. Je me suis dit, ah, voilà un sujet absolument passionnant, et les perspectives étaient ouvertes.
Alors prenons la carte de l'ethnographie française de l'époque. Soustelle est envoyé à Mexico, Métro est en Argentine, Paul-Émile Victor part au Groenland, Germaine Tillon et Thérèse Rivière en Algérie, etc. Mauss intervient sans relâche pour protéger les élèves qu'il a repérés. Il ne cesse de rédiger des recommandations pour les uns et pour les autres et de conseiller ceux qui détiennent les fonds en France, mais aussi bien aux États-Unis à la Fondation Rockefeller. Symétrique de Paul Rivet, qui rénove à l'époque le Musée de l'Homme, il est à lui seul une plaque tournante. Mais, tout à tous, dévoué, il a de moins en moins le temps de transcrire sa parole foisonnante en texte écrit. Marthe Ducret, qui l'aida un moment dans son travail, à peine devenue sa femme, tombe malade, les rôles s'inversent, c'est lui qui doit l'aider, la vie n'est pas toujours gaie, dit-il.
Après cette période, la vie de Mauss sera très marquée par la guerre, monsieur Lebrun.
L'été 1938, Mauss a fait ce qui sera son dernier voyage. Invité à un congrès à Copenhague, il traverse l'Allemagne en chemin de fer. Son train est souvent retardé par les mouvements de troupes. Quand en septembre sont signés les accords de Munich, il est néanmoins de ceux qui veulent encore croire la paix possible. En 1939, il démissionne librement de sa chaire à l'école pratique pour faire avancer la carrière de Maurice Lennart, pasteur en Nouvelle-Calédonie, place aux jeunes. Mais c'est contraint et forcé qu'il devra démissionner bientôt du Collège de France. Il est juif, il ne va pas le dissimuler. Le grand appartement qu'il habite, boulevard Jourdan, non loin de la cité universitaire, est réquisitionné pour un général allemand. Ses élèves l'aident à mettre en caisse précipitamment quelques 10 000 livres, et il se réfugie dans un trou à rats un peu plus loin. Il soigne sa femme, qui la première des deux perd la mémoire. Il fait les courses, et aux quelques intimes qu'il voit encore, ce qu'il a raconté dorénavant ne concerne plus le don, mais le marché noir. Il ne voit plus autour de lui que les calculs égoïstes qu'il avait cru pouvoir dépasser.
C'est comme si tout lui échappait. Et cette période-là est une période absolument terrible. Il est perdu. Bon, il est âgé, hein, il a 60 ans. Il a perdu vraiment tout un ensemble de proches. Certaines passent du côté du gouvernement de Vichy. On peut évoquer Marcel Déat, qui crée son parti, qui s'appelle d'ailleurs le Rassemblement National. Rassemblement National Populaire, je crois, en 42. Et voilà, donc il vit cette période d'une façon très très difficile, et puis évidemment, en tant que juif, on peut imaginer ce qu'il... Même s'il a, tout un ensemble de soutien, mais c'est une période où effectivement tout lui échappe, et en grande partie, il perd la tête, il s'installe dans un long sommeil, il soigne sa femme malade, etc.
Oui, mais enfin, il dit que c'est le retour à l'égoïsme le plus fondamental chez les Parisiens.
Ouais, c'est vraiment le chacun pour soi. Et toute cette la vénération qu'il a pour ce miracle du social, quoi. Le don, c'est ça. Hein. Il est décrit comme l'instant fugitif où la société prend. Voilà comment du collectif se constitue à travers le geste d'échange qui engage tout un ensemble de sentiments moraux. L'expérience qu'il fait à ce moment-là est effectivement l'expérience inverse, en quelque sorte, de repli sur soi.
Elle est prioritaire, celle-là ?
Elle doit être enceinte, mais ça ne se voit pas encore.
C'est pas régulier, on ne devrait pas être prioritaire sans que ça se voit.
Et puis à quoi ça sert pour ça prioritaire si tout le monde devient prioritaire ?
Ouais, t'en fais pas, ils ont leurs idées là-dessus.
Qui ? Bah, eux, pourvu que j'ai le temps d'aller faire la queue aux légumes.
Alors pendant que l'espérance renaissait, Mauss s'est enfermé dans le silence. Il confond maintenant ses élèves entre eux, mais ils ont été quelques-uns, à ne pas l'oublier et à l'accompagner à sa dernière demeure.
vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Intelligence, service. France Inter. Jean Lebrun.
Mais non, Marcel Mauss n'est aucunement oublié. Et sa pensée a de plus en plus d'écho aujourd'hui. Notre deuxième interlocuteur va en témoigner. C'est Bruno Carsenti. Familier de toujours de Durkheim et de Mauss, l'un des animateurs du labo Lierre. Alors, on prononce Lierre, mais ça s'écrit L-I-E-R. Lier la paille du toit de la maison de l'homme, coudre et recoudre plutôt que tailler. De vieux principes réagissent depuis longtemps contre les rigueurs, les inhumanités. Il est donc légitime d'aller chercher les sources de nos assurances sociales contemporaines dans les sociétés dites archaïques.
Mais d'abord, l'archaïque, c'est pas le primitif. Vous voyez, vous avez dit vous-même archaïque. Et si vous avez dit archaïque, c'est que vous avez pensé à arché, à ce qui commence et ce qui commande, c'est-à-dire à ce qui est constamment premier.
Il n'aimait pas le mot primitif, d'ailleurs. Enfin, quand quelqu'un une société primitive, même quand c'était son ami Lénard, il trouvait que c'était une expression malvenue.
C'est d'ailleurs ce qui le singularise dans l'école durkheimienne. Hein, c'est qu'il a été le premier à essayer d'extirper le mot primitif de l'usage courant du langage scientifique de son époque, hein, puisque les sociétés primitives, tout le monde utilisait cette formulation. Mauss a bien repéré le risque qu'il y avait à accentuer le problème du commencement, et donc à introduire tout de même l'idée que ça a commencé quelque part sous une forme plus simple, hein, que là où on se trouve aujourd'hui. Et ça vaut pour le don comme pour d'autres faits. Ça lui semblait d'abord impropre à décrire la complexité des sociétés, on dira exotiques, hein, ou archaïques qu'il étudiait. Donc cette complexité, c'est-à-dire que les phénomènes humains, les phénomènes sociaux sont d'emblée complexes, hein, et c'est un régime de complexité qu'il faut comprendre. Hein, c'est pas une simplicité dont on serait les dérivés ou les complications. La société mélanésienne n'est pas plus simple que la nôtre. Voilà. Néanmoins, elle permet, par des procédures de connaissance ad hoc, hein, par du comparatisme, par de l'analyse, par de la description fine comme celle que l'ethnologie, telle que Mauss la pense, permet, elle permet de saisir, de mieux faire ressortir l'arché au sens, cette fois-ci, du commandement, c'est-à-dire au sens de règles ou de normes, hein, ou de formes de normes dont on peut trouver dans d'autres sociétés la même expression, voyez, ou la même expression formelle. Ça faisait que, en parlant d'archaïque, il se donnait les moyens de mieux comprendre la société de son époque. Hein. Il faisait ce déplacement descriptif et analytique pour mieux comprendre la société de son époque. Et du coup, pour comprendre aussi quels sont les principes inconscients, en fait, inconscients, socialement inconscients, qui guident toutes les pratiques dans lesquelles il y a des dons. Voilà. Alors, est-ce que le système de sécurité sociale s'explique par une logique de l'intérêt. Que cet intérêt soit celui des sujets bénéficiaires du système, ou que cet intérêt soit celui de la société prise comme un tout, hein, de l'État qui trouve son intérêt parce qu'il trouve que économiquement c'est plus gérable qu'un système fondé sur la philanthropie. D'accord ? Mauvaise manière de poser le problème, dit Mauss. En fait, le système de sécurité sociale, il hérite de principes qui doivent trouver leur débouché, hein, et qui s'expliquent ou qui s'éclairent, hein, à partir de la logique du don, comme une logique qui traverse toute forme de société en y prenant des formes différentes. Voyez. Donc, ça n'est pas la logique de l'intérêt, c'est la logique du don qui permet de justifier et d'éclairer ce qui se joue dans la sécurité sociale. Alors, ça veut dire que les penseurs de la sécurité sociale ont été, d'une certaine manière, sans le savoir eux-mêmes, hein, agis, traversés par une intention qui a son origine, ou son, plutôt son principe explicatif, dans les pratiques de don.
Oui, sauf Bruno Carcentic, aujourd'hui, et Mauss en était conscient lui-même, nous sommes devant la montée de l'individuation, et que dans cette nouvelle configuration des consciences, l'État, l'État, il doit se voir un peu comme un individu en grand.
L'État n'est pas un individu en grand qui fait face à des individus de petit format. L'État Léviathan, l'État, la représentation de l'État avec le souverain comme un grand individu et les sujets comme de petits individus qui lui sont d'ailleurs incorporés, si vous voulez. Hein. Vous voyez, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a ? On a une société qui est faite de petits individus qui sont des atomes, en fait, qui sont des atomes. Donc c'est pas vraiment une société, c'est un agrégat, dirait un Durkheimien. Une société, c'est pas ça. Une société, ce sont des rapports, et de ces rapports naissent ou peuvent naître des individus qui d'ailleurs varient dans la forme qu'ils prennent, la conscience qu'ils prennent d'eux-mêmes, les droits qui leur sont attribués et qu'ils revendiquent, etc. Donc, cette vision-là, c'est pas la vision de l'État que vont avoir les Durkheimiens et les Maussiens. Bon, quand on dit l'État... Dans ce cas-là, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle effectivement des dirigeants, de l'appareil d'État, des représentants incarnant l'État, c'est une chose. Mais l'État, c'est bien plus que ça, et l'État a évolué comme un État social, et il ne cesse pas d'évoluer en réalité comme un État social, indépendamment de l'existence des dirigeants. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, droite et gauche sont emportés dans un mouvement qui les dépasse, qui est celui qui découle du fait que l'État se socialise, que la richesse investie dans la politique publique, hein, quelle est-elle ? Et est-elle vraiment réduite par rapport à une situation passée ?
Il y avait un reportage très intéressant dans Libé sur les Ardennes. Bon, alors les services publics sont mis à mal, les postes voient leurs horaires se restreindre, mais il y avait une enquête sur une maison de service public, comme on en crée partout, puis il y avait le témoignage d'un type qui était un employé de l'État, disons qu'il s'appelait Arthur, et qu'il accompagnait tout le monde pour remplir les déclarations d'impôts sur Internet. Et c'est la pointe de la socialisation de l'État.
Ça, évidemment, ça passe par ces agents-là. Ça passe par cette spécialisation professionnelle. C'est la réalité à laquelle, en fait... on a affaire.
Oui, mais la réalité, c'est aussi la multiplication des liens plus faibles qui se nouent sans qu'il y ait vraiment de réciprocité. Alors, on peut prendre beaucoup d'exemples. Le don du sang, le bénéficiaire qui reçoit un produit recomposé qu'il ne peut pas identifier à une personne. Ou alors, dernière question, Bruno Carcenti, le Téléthon, le pays mis en branle au bénéfice de quelques-uns atteints d'une maladie rare.
Est-ce qu'on sait ce que ça fait socialement le Téléthon ? C'est-à-dire, on se concentre sur les bénéficiaires des dons, hein, mais on ne se concentre pas assez sur le besoin qu'ont les gens de donner. Hein. Et le travail qu'ont fait Dominique Cardon et Jean-Philippe Hurtin, qu'ils avaient intitulé « Chorégraphier la générosité, le Téléthon, le don, la critique », a montré que, au fond, ce qui jouait dans le Téléthon, c'était quelque chose d'assez maussien, hein, de très maussien. Hein. C'est le besoin qu'a la société de mettre en scène et de permettre aux besoins de donner, et donc au ressourcement par le don des rapports sociaux, de se manifester.
Oui, mais en 2018... Voilà que le Téléthon coïncide avec le début du mouvement des gilets jaunes, ce qui met un peu dans l'embarras les animateurs, les vedettes à la télévision. Il y a le don et de l'autre côté, peut-être, la revendication de justice.
On est dans le Téléthon au 36-37.
Alors vas-y, regarde, ça va peut-être passer là, non?
Je sais pas, les 44, tu penses? En tout cas, pour l'instant, on est à 43 977. Ah, ça y est, oui, 44 voilà. Millions. Et 10 650 euros.
Ouais, c'est l'arrivée de Patrick.
Patrick, par un jour, par un toujours. Patrick, toujours fidèle et qui revient.
Très
et
heureux
on en est
d'être là une fois heureux. De plus. Ouais, heureux d'être là. C'est sûr qu'une fois de plus, on va faire appel à la générosité des gens dans une période évidemment pas simple et troublée pour tant de gens. Tant de gens à qui on demande de la générosité, qui eux, de leur côté, nous demandent aussi de la générosité et de la compréhension. Donc c'est vrai que c'est un moment délicat.
Merci beaucoup Patrick.
Merci Sophie.
Et là, la question, c'est comment, sans le savoir, en fait, hein, sans le savoir, s'institue une publicisation et une mise en scène de pratiques contemporaines de dons qui ont une fonction qui déborde la résolution d'un problème de souffrance. Au-delà de la souffrance, ou en tout cas à travers la souffrance, se joue pour la société l'actualisation de rapports de dons qui lui permettent de se représenter son sens de la justice. Voilà.
Et oui, le don ne se dépolitise pas. C'est une des leçons de Marcel Mauss, ethnologue, savant, engagé. Nos remerciements à Philippe Chagnal qui anime la revue Mauss, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, et à Bruno Carsanti, qui a publié entre autres deux livres sur Marcel Mauss aux presses universitaires de France. La prise de son, Hélène Langlois, Yves Lehors, à la Maison de la Radio et de la Musique, Sofiane Aktib, les agents d'intelligence service, Frédéric Martin, Franck Olivard, la réalisation, Audrey Ripouille.